Radio Kapi. Oh, Kapi.
Des tirs nourris sont entendus depuis près de 2 heures à la place Victoire dans la capitale où des braqueurs ont pris pour cible une agence de la Rabobank. Vous entendrez le bourgmestre de Calamon, Charlie Louboya, pour des précisions. Dans la province du Kwango, le gouverneur Willy Bitouissila est accusé de mauvaise gouvernance et de détournement de fonds. Une motion de défiance est déposée à l'Assemblée provinciale. Le gouverneur du Nord Kivu, le général Kakule Somo-Evariste, est notre invité ce midi. Il reviendra sur les protocoles d'accord signés entre les provinces du Maniema, du Nord et du Sud Kivu pour mutualiser les efforts en matière de développement, de connectivité, des mines et d'infrastructures. Bonjour à tous. S'attire à la place Victoire dans la commune de Kalamu à Kinshasa depuis près de 2 heures. Une bande de braqueurs s'en est pris à l'agence Eurobank de la place. Des bandits seraient encore à l'intérieur. Des agents de l'ordre sont encore sur place pour essayer de les arrêter. Charlie Louboya, bourgmestre de Kalamu, apporte des précisions. Il est joint par Babel Pongo Massimango.
C'est depuis 9h30 qu'il y a eu un adolpa au niveau de la Rabobank, sur l'avenue Kassavou, en face de place des artistes. Ils sont rentrés dedans, il y avait une bande qui était restée dehors, et heureusement, il y avait aussi la police militaire qui régulait la route. Ils ont trouvé un monsieur déguisé en chef coutumier un peu bizarre. Quand ils l'ont fouillé, ils ont vu une arme. Le temps de le filer, il voulait rentrer dans la banque, et il s'est échappé. Il y avait aussi un véhicule IAS en train d'attendre le voyou qui était à l'intérieur. Une fois opéré pour qu'il puisse partir. Maintenant, il y a une bande qui a fui, l'autre qui est resté jusque là à l'intérieur de la banque. Le commissaire provincial est là sur place avec son équipe, sont en train de contrôler la situation. Il y avait si c'est 2 ou 3 véhicules, il y a 2 autres qui ont fui, il y a un qu'on a arrêté, on a arrêté les chauffeurs. Par contre, il y a encore un nombre de voyous qui sont restés à l'intérieur de la banque.
Vous avez une idée de la situation des agents de la banque?
Selon l'information, on les a fait évacuer et maintenant il reste que les voyous qui sont restés à l'intérieur.
4 donc sont à l'intérieur selon le bourgmestre et 2 arrêtés dont une femme. Et selon des témoins sur place, des tirs ont cessé. Une femme de l'équipe des braqueurs qui s'est trouvée dans la banque est sortie. Elle a déposé son arme. Elle a été récupérée par les forces de l'ordre. Ce qui ramène à 2 le nombre d'assaillants arrêtés avec bien sûr une autre femme chauffeur appréhendée un peu plus tôt. Apparemment les négociations seraient en cours pour que les autres qui sont encore dans la banque déposent les armes. La population sur place demande qu'on les lui livre. Les activités sont toujours paralysées sur la place Victoire. La justice congolaise a besoin des nouvelles réformes pour renforcer l'arsenal juridique. Ces réformes ont été au centre de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation hier mercredi au Palais du Peuple. En présence du président de la République, des magistrats et avocats, la Cour de cassation a fait son entrée judiciaire, exercice 2025-2026, au cours d'une audience solennelle et publique. Sous le ton de réforme juridique et interpellateur des professionnels de la loi, le bâtonnier national Michel Chebele plaide pour l'adoption d'une loi consacrant l'État responsable de la faute professionnelle commise par le magistrat en supprimant la prise à partie des magistrats. Et le procureur général Firmin Vondé demande aux législateurs de voter une loi érigeant l'enrichissement illicite en une infraction autonome. Reportage Jeff Ngoy.
Une voie de recours par laquelle le justiciable exerce son droit contre le magistrat qui l'accuse d'injustice ou de partialité, le bâtonnier veut que la procédure de prise à partie soit supprimée, car la faute du magistrat devrait plutôt entraîner la responsabilité directe de l'État. La justice rendue est celle de l'État et non du magistrat, sinon c'est consacrer l'injustice, dit-il. Planchant sur la problématique de la répression de l'enrichissement illicite en droit positif congolais, Firmin Vonde pense qu'une répression efficace de l'enrichissement sans cause demeure un levier incontournable de la lutte pour l'assainissement des mœurs. Cependant, la législation congolaise accuse quelques lacunes liées notamment à l'absence d'une incrimination autonome de cette infraction qui doit se distinguer de la corruption du détournement. Enfin, le premier président de la Cour de cassation rappelle le rôle de l'avocat dans l'administration de la justice. Élie Léon Ndomba dénonce les antivaleurs qui font perdre à cette profession sa noblesse en mettant en relief la nécessité et l'urgence de concilier la qualité et l'accès à la justice en faveur des justiciables économiquement faibles.
Restons toujours dans ce chapitre de la rentrée judiciaire. Certains avocats saluent ce discours du premier président de la Cour de cassation sur le respect des normes dans l'exercice de leur travail. Mais à leur tour, ils pointent du doigt les juges. Parmi eux, Maître Cicéron Ouamba, avocat au barreau de Kinshasa Matete, il pense qu'il faut que tout le monde puisse se remettre en question, surtout les juges qui doivent trancher correctement. On l'écoute au micro de Jeff Ngoy.
Ce qui est vrai que c'est un discours interpellateur, c'est très important parce que tout ce que nous faisons dans la vie, nous devons intérioriser nos pensées, nous devons tenir compte de l'attendement sociétal. Qu'est-ce que la société attend de nous? J'ose croire que bien qu'on va interpeller les avocats que nous sommes, mais beaucoup plus faudrait interpeller même mais surtout les juges qui sont censés dire le droit et alors le vrai. Nous sommes des citoyens. Et dans notre pays, nous avons besoin de la justice parce que la justice élève une nation. Et on ne peut pas vouloir à ce que cette nation puisse s'écroupir dans la misère parce qu'il n'y a pas un bon droit qui est dit. Nous sommes là pour défendre ceux-là qui n'ont pas de voix.
Côté justice militaire, le commandement de la 11e région militaire des FRDC salue les poursuites judiciaires contre un réseau des présumés criminels qui sèment la terreur dans la ville de Kikwit au Kwilu. Il salue la condamnation à 20 ans de prison par le tribunal militaire d'un certain Fiston Toulengui, considéré comme leader des bandits armés qui insécurisent la région. On écoute les explications du capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole militaire de cette région, dans cet extrait proposé par Grace Hamzati.
Il a fallu quelques jours seulement en audience de flagrance pour condamner Fiston Toulengui, l'un des plus grands bandits armés qui a tracassé la population de la ville de Kikwit à 20 ans de prison ferme. Et cela après avoir écouté les témoins victimes de ce bandit. Il faut rappeler, Toulengui et autres grands bandits armés ont été présentés par le ministère public devant le tribunal militaire des garnisons de Kikwit pour terrorisme, vol armé et association des malfaiteurs. Les autres connaîtront bien sûr leur sort la semaine prochaine. Le commandant de la 11e région militaire, le général-major Padir Mouizou Jonas, s'est dit très satisfait et a encouragé la justice à continuer. Il a même promis de mettre tout en place pour que l'auditorat militaire fasse le même exercice, non seulement ici à Kikwit, mais aussi à Kenge et dans d'autres villes où les bandits sèment terreur et désolation.
Dans un autre registre, les députés Crispin Mbindoulé interpellent le gouvernement sur la dégradation continue de la situation sécuritaire dans plusieurs régions du pays due à l'activisme de groupes armés. L'élu de Boutembo, Nord Kivu, a déposé à l'Assemblée nationale une question orale avec débat adressé au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Se confiant à Radio Okapi hier mercredi, ce cadre de l'Union sacrée affirme que dans son action parlementaire, il exige des explications notamment sur l'opération conjointe dénommé Tchouja entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise UPDF contre les rebelles ADF au Nord Kivu et en Ituri. Il invite par ailleurs le bureau de la chambre basse du Parlement à faciliter le contrôle parlementaire pour la rédévabilité des membres du gouvernement. Le député national explique au micro de Grace Hamzati.
Les terroristes ADF Nalu sont en train de tuer la population. Ça fait un mois, plus de 100 morts dans la partie grand nord de la province du Nord Kivu, mais aussi dans les territoires de Mambasa, Irumu, à province de l'Ituri. L'opération conjointe entre l'UPDF et les FARDC, à mon humble avis, ça a échoué et qu'il faut réévaluer et changer la méthodologie d'attaque contre les terroristes ADF Nalu. Dans ma question, je parlais aussi du M23. J'ai aussi soulevé des questions des Mbororo qui sont dans la province de Haut-Ouélé. J'ai soulevé aussi la problématique des Mobondo dans les Kwilu, etc. Et j'ai aussi soulevé la question des Bakatakatanga, des Gideon dans la province de Tanganyika. Je demande au ministre de la Défense qui est chargé de la mise à condition des unités, qui est chargé d'équiper, d'entraîner, qui est chargé de de former nos militaires de s'impliquer normalement dans les opérations contre tous les groupes armés qui endeuillent la population à l'est du pays.
Rendons-nous à présent dans la province du Kwango. Une motion de défiance a été déposée mardi contre le gouverneur de province. Plusieurs chefs d'accusation sont mis à charge de Willy Bitwisila, dont une gestion calamiteuse, le détournement des fonds publics, l'outrage à l'Assemblée provinciale, l'escroquerie, l'absence totale de bilan à mi-parcours, ainsi que l'incompétence notoire. Pour Achille Kidimbou, l'un des signataires de cette pétition, Willy Bitwisila ne répond pas aux besoins de la population. On l'écoute.
Il y a une motion qu'on venait de poser contre le gouverneur de province. Il y a quelques griefs qui lui sont reprochés, entre autres, il y a l'incompétence et l'amateurisme, il y a les détournements, la mégestion, gaspillage, outrage à l'organe délibérant et mépris aussi. Il y a aussi l'absence du bilan et une communication mensongère et biaisée de la part de ses communicateurs. Eh bien, ce que nous demandons aux députés, les élus sont des envoyés de la population. Quand la population nous a envoyé ici, elle nous a confié une mission, défendre leurs intérêts, que leurs conditions de vie puissent être accessibles. Si nous demandons quelque chose aux députés, c'est que nous puissions être conscients. Est-ce que c'est à qui nous avions confié la gestion de notre province? Est-ce qu'ils répondent aux besoins de la population? S'ils ne répondent pas aux besoins de la population, c'est nous qui les avions placés là où ils sont aujourd'hui. Nous devons en fait tirer toutes les conséquences logiques quant à ces, c'est-à-dire placer des gens qui doivent répondre aux besoins de la population.
Outre le gouverneur de province, les 14 députés pétitionnaires accusent aussi le président de l'Assemblée provinciale du Kwango, André Massala, notamment de mégestion à outrance par la dissimulation de frais de fonctionnement en se payant lui-même des frais de mission au-delà du barème, la non-prise en charge des groupes parlementaires, le faux en écriture et détournement présumé sur la paye des administratifs. En réaction, le président Massala rejette en bloc toutes ces accusations qu'il qualifie de fausses. On l'écoute.
Depuis que j'ai commencé en tant que président de l'Assemblée provinciale là-bas, il n'y a jamais eu une mégestion. Je dis bien, j'insiste encore, il n'y a jamais eu une mégestion parce que tout ce que nous faisons, c'est toujours en concertation avec les membres du bureau. Et du côté, surtout de la gestion financière, je n'ai jamais touché à un franc du bureau. Tout se fait par l'honorable Kester. Moi, je ne fais que contrôler l'administration, je vois, et je ne touche pas à un paiement, je ne fais rien. Tout ça se fait ensemble avec les Kester. Parfois, on implique aussi l'honorable vice-président. Donc, il n'y a jamais eu de gestion là-bas. Seulement, le problème, c'est un problème de gens qui ne veulent pas que la province avance. Les contrôles, nous avons trois missions. Et la représentation de la population, il faut légiférer, plus il faut contrôler. Mais pour eux, quand vous arrivez au niveau de contrôle, non. Quand il y a eu établissement donc de le calendrier des travaux de la session de septembre, on a parlé de contrôle. Et ça fait couler de l'encre, toujours avec les mêmes députés.
Ce dossier est signé Blaise Shindani Kambala. Nous sommes le 16 octobre et c'est la journée mondiale de l'alimentation. Elle rappelle la création le 16 octobre 1945 de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Main dans la main pour des aliments et un avenir meilleur, c'est le thème retenu cette année. Dans un monde où environ 8,2% de la population vit dans la sous-alimentation chronique, la FAO estime qu'en travaillant ensemble, il est possible de faire en sorte que tout le monde ait accès à une alimentation saine. Suivez l'appel du directeur général de la FAO, lu par le représentant adjoint de cette organisation en RDC, Ibrahim Abdoul Nass. C'est un extrait proposé par Rachel Kalombé.
Cette année, la Journée mondiale de l'alimentation marque le 80e anniversaire de la création de la FAO qui a dès le départ eu pour mandat de libérer l'humanité du besoin. Cette journée est placée sous le thème « Mène la main pour des aliments et un avenir meilleur ». Ce thème vient opportunément nous appeler à la collaboration mondiale pour construire un avenir pacifique, durable, prospère et en sécurité alimentaire. À l'heure actuelle, au niveau global, environ 8,2% de la population souffre de la sous-alimentation chronique. En outre, en 2025, bien que la population ait triplé, le monde a produit largement assez de calories pour nourrir tous les habitants de la planète. Pendant que nous célébrer cette journée qui est l'occasion de réfléchir aux enjeux du passé, présent et futur, l'une des conclusions de l'étude réalisée par la FAO me revient à l'esprit. Nous avons le choix entre aller de l'avant ou reculer. Chers amis, l'heure n'est pas au bilan. Cependant, il y a lieu de préciser que la FAO et ses pays membres ont de nombreux accomplissements à leur actif pendant les 80 ans. Et tous les mérites de ces réalisations reviennent à nos membres qui n'ont cessé de soutenir l'idée selon laquelle un monde libéré de la faim est un monde meilleur pour tous, que l'on soit riche ou pauvre, que l'on vienne du nord ou du sud. En travaillant avec l'ensemble des gouvernements, des organisations et des secteurs et des communautés, nous pouvons transformer les systèmes agroalimentaires pour veiller à ce que tout le monde ait accès à une alimentation saine et en harmonie avec la planète. Il faut agir pour l'avenir.
Dans le territoire de Nyunzu, au Tanganyika, la lutte contre l'insécurité alimentaire prend racine. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, a soutenu le ménage du village de Kihi en leur fournissant des semences de qualité et des outils aratoires ou bêches, râteaux, arrosoirs et j'en passe pour ne citer que cela. Ces familles ont cultivé près de 2 hectares de terre et hier mercredi, c'était le jour de récolte. Témoin de l'événement, Blaise Maka.
Cris de joie et danse accompagnent la cueillette des tomates, oignons, ciboulettes, aubergines, gombo et choux. Femmes et hommes, jeunes et personnes âgées, tous participent à cette activité qui couronne plusieurs mois de travail acharné. Judicaël Pazou, coordonnateur des opérations à la FAO, souligne qu'au-delà de semences, sa structure a formé des ménages et renforcé leur capacité de production. Cette récolte va améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région, insiste-t-il. Madame Kaya Lubaya, bénéficiaire du projet, témoigne.
FAO, comment le fait qu'elle tout ça et dire?
La FAO est venue à leur village pour les apprendre cette culture maraîchère. Avant, ils le faisaient à leur façon, mais après le passage de techniciens de FAO, ils ont appris comment on peut faire les écartements, comment on peut planter des tomates, des choux pour récolter à grande échelle, sans pour autant dépenser beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, ça commence déjà à produire des fruits parce qu'ils sont en période de récolte. Ce travail, ça les aide déjà. Ils commencent déjà à scolariser leurs enfants. Après avoir vendu les produits ici, ils ont l'argent pour se prendre en charge.
Pour pérenniser cette initiative, la FAO mise sur l'appropriation des techniques agricoles par les bénéficiaires, mais aussi l'implication des autorités locales et des ONG. Depuis Nyunzu, Blaise Makassi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le rappeur Booba est en garde à vue à Paris depuis hier mercredi dans l'enquête sur le harcèlement dont l'accuse dans une plainte une autre figure du hip-hop, Maître Gims. Cette garde à vue, qui peut durer 48 heures, vise à interroger celui dont le vrai nom est Eli Yaffa, déjà mis en examen pour harcèlement moral aggravé sur Magali Berda, sur la plainte déposée en août 2024 pour harcèlement moral et cyberharcèlement par Gims et sa compagne Demdem.
L'invité.
Notre invité est le général Kakule Soumoué Évariste, gouverneur du Nord Kivu. Il s'exprime sur les différents protocoles d'accord que les provinces du Maniema, du Nord Kivu et du Sud Kivu viennent de signer. Ceux-ci portent notamment sur la mutualisation des efforts pour le développement, la connectivité, les mines et les infrastructures. Le général Kakule s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur le gouverneur général Soumoué Kakule, bonjour.
Bonjour madame.
Dans la province du Maniema, vous venez de signer les accords avec le gouvernement provincial. Il s'agit de quel accord?
Nous avons signé un protocole d'accord de collaboration entre les provinces du Maniema et Nord Kivu qui porte sur le développement de l'agriculture, notamment les infrastructures, mais aussi la collaboration dans le secteur des mines.
Quel intérêt qu'a les gouvernement du Nord Kivu de signer cet accord avec le gouvernement provincial du Maniema?
D'abord, nous avons signé un accord beaucoup plus global de coopération. Finalement, nous sommes en train de mettre en œuvre ce que nous avons décidé à Kolwezi entre la province du Sud Kivu, du Maniema et du Nord Kivu. Mais pour ce cas spécifique, c'est entre le Maniema donc le Nord Kivu, nous visons à établir un couloir cacaoyer qui s'inscrit dans le corridor vert Kiev ou Kinshasa, qui est une vision du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Dans ce cadre-là donc, nos deux provinces que Dieu a bien voulu nantir avec beaucoup de potentiel, qui permet, n'est-ce pas, le développement des cultures pérennes, le cacao, le café, le palmier, nous mettons ensemble pour mutualiser nos efforts et voir dans quel moyen nous pouvons ouvrir ce couloir qui va de Beni à Walikale, Lubutu jusqu'à Kindu, afin de développer cette culture-là. En la développant, nous allons aussi en même temps mettre en place une connectivité qui permet non seulement à nos provinces d'être reliées, mais aussi de se développer autour de l'agriculture qui est une alternative au secteur des mines ou un complément au secteur des mines.
À cela, vous avez appuyé aussi dans le cadre des infrastructures, dans la réhabilitation du tronçon Kisangani, Ubundu, Kegagne, les gouvernements du Nord Kivu en finançant ces travaux aussi.
Nous avons aussi un intérêt direct dans ces contrats parce que, comme vous le savez, il y a une très forte communauté du Nord Kivu ici au Maniema. Les biens manufacturés qui sont vendus dans tous les Maniema viennent essentiellement de Butembo, Beni. Donc, s'il n'y a pas de route pour arriver ici, nous aussi, nous ne savons pas vendre parce que c'est un très grand marché pour nous. C'est ainsi que nous avons dit que dans le cadre de la collaboration, nous puissions mutualiser nos efforts afin de permettre que la route qui relie la ville de Kisangani à la cité de Ubundu soit rapidement réhabilitée. Et ce n'est pas gratuit parce que dans les contrats, il est spécifié que cette contribution sera remboursée et c'est une contribution au Nord Kivu qui est faite dans le cadre de la collaboration avec les partenaires économiques locaux, la FEC, la CAD, l'IDIC et bien d'autres qui sont des organisations qui ont décidé d'accompagner le gouvernement que je dirige pendant tout ce temps pour que nous puissions, n'est-ce pas, arriver à développer non seulement le Nord Kivu mais aussi les autres provinces sœurs qui ont accepté de collaborer avec nous.
Si ce n'est pas un secret, on peut savoir les coûts de l'enveloppe de l'appui du gouvernement du Nord Kivu.
C'est l'équivalent de 50 000 dollars en francs congolais et 100 mètres cubes de gasoil. Le Maniema a déjà donné 155 000 dollars et 100 mètres cubes de gasoil. Donc, ce n'est qu'un complément que nous allons ramener à ce que le Maniema est en train de faire. Et la province de la Tshopo va aussi nous rejoindre parce que il est aussi partie prenante au contrat que nous avons signé pour qu'on puisse réhabiliter ensemble ce tronçon-là de 126 kilomètres reliant Ubundu à Kisangani.
Avec la situation actuelle du pays où le Nord Kivu est tellement frappé, pensons que si ce projet s'est matérialisé, ce sera un offre de soulagement pour votre province.
Un ouf de grand soulagement. Et ce n'est pas seulement ce segment routier, mais il y a aussi celui de Luna Komanda que nous venons de réhabiliter ensemble avec la province sœur de l'Ituri. Donc ce n'est qu'une deuxième expérience. Nous allons tenter la même chose avec la province du Haut-Ouélé, de Bas-Ouélé, qui sont en tout cas les débouchés du grand centre économique de Butembo, Beni, pour que nous soyons finalement connectés à d'autres provinces, sinon le Nord Kivu, dans la situation où il se trouve, il ne peut pas vivre en autarcie. On ne saura pas continuer à faire le commerce que nous savons bien faire au Nord Kivu si on n'est pas relié aux autres provinces.
Kakule Somwa Evaristo, je vous remercie.
Merci à vous aussi, madame.
Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.